Réplique, la vie et la mort de Paul Lyonnais avec Jean-Pierre Le Goff et Philippe Reynaud. Paul Lyonnais est mort le 19 août 2011. Il avait 62 ans. Son dernier livre, Zone de mort, qui raconte l'épreuve ultime, vient de paraître aux éditions Stock. Pour contribuer à faire connaître ce sociologue atypique, auteur notamment de Jeux, modes et masses et de Voyage au centre du malaise français, l'antiracisme et le roman national, j'ai invité aujourd'hui Jean-Pierre Le Goff et Philippe Reynaud. Et je commencerai par vous, Jean-Pierre Le Goff. Vous avez été, depuis vos années d'étudiant, l'ami de Paul Lyonnais. Comment résumeriez-vous son itinéraire, Jean-Pierre Le Goff?
Je pense que, bon, il est comme moi. On a été, j'allais dire, on s'est rencontrés dans le moule bouillonnant de mai 68, avec des aspects gauchistes, mais qui n'étaient pas l'engagement militant, on va dire, marxiste, léniniste, etc. C'était anarcho-situationniste et assez violent, hein, contre nos professeurs, sauf un professeur qui était à Caen, qui était Claude Lefort, qu'on épargnait et qui, avec lequel on était d'ailleurs en liaison. Bon. Donc cette rencontre est partie de là. Très vite, nos itinéraires se sont un peu séparés, parce que moi, j'ai continué dans le gauchisme, j'allais dire militant maoïste, alors que lui, très tôt, comme il était atteint d'une maladie, avait en tête d'écrire une œuvre, si vous voulez. Ce que je n'avais pas, moi, c'était vivre avant tout, quoi.
Atteint d'une maladie, il avait eu un lymphome jeune, c'est ça?
Il avait eu
soigné
un lymphome, il a été traité au cobalt, et je ne sais plus combien d'années à la fin. Ça a donné une espèce de calcification de l'aorte, et donc il est replongé dans ce moment. Alors, voilà un peu. Et c'est quelqu'un avec lequel j'étais constamment en dialogue et en contradiction, en dialogue et en débat, tout au long jusqu'au dernier jour, puisqu'on l'a accompagné avec Éric Conant et des membres de sa famille jusqu'à la veille de sa mort, enfin. Alors, je pense que c'est quelqu'un, pour comprendre le parcours, qui a évolué. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans la vie de Paul Lyonnais. Il y a le moment que j'appellerais de la redécouverte de la démocratie,
mais
sous
attendez,
une certaine
avant
modalité.
Avant ce moment, vous avez dit, vous connaissez dans le bouillonnement de 68, oui, mouvement violent. Comment se caractérisait cette violence,
une
de
forme
votre part et de la sienne?
Je dirais une forme verbale, comme les situationnistes. Avec interruption des cours, au nom, si vous voulez, d'une espèce de chose très confuse qui ramassait un peu les sciences humaines. Bon, il y avait, c'était un groupe, je le qualifie d'ailleurs d'anarcho-situationniste, remettant en cause tout un système d'enseignement. Avec des aspects, moi je parle dans mon introduction de voyous intellectuels. C'est-à-dire que, en assumant d'ailleurs on assumait totalement cette position, c'était très anarchisant. Alors, sur l'évolution, je pense que, il a été connu par, je me disais, masse, qui, à mon avis, est le moment de redécouverte dans les années 80 de la démocratie. Mais c'est quelqu'un qui a évolué. Moi, je dirais que j'ai évolué un peu en parallèle avec lui, puisque les années 90 vont marquer un déplacement de sa réflexion vers la question de la décomposition et de la recomposition idéologique à ce moment-là. Et je dirais que, en continuant plus loin vers les années 2000, où là, la maladie va revenir, il y a à la fois une grande œuvre qui est Le recul de la mort, et aussi et surtout vers la fin de sa vie, la redécouverte de la littérature, et de notamment à travers le testament de Céline, il devient un grand lecteur de littérature. Donc on a une évolution, et je dirais, à travers cette évolution, il y a des pôles de sa réflexion. Une pôle de sa réflexion qui comporte sur le jeu vœux, modes et masses, où c'est la question des loisirs et des activités nouvelles des sociétés, dans les sociétés démocratiques de masse. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième pôle, on pourrait dire, c'est une critique de la recomposition et de la décomposition idéologique. Là, on va trouver effectivement Voyage au centre du malaise français. Et je dirais le dernier pôle un peu, c'est la redécouverte de la littérature et aussi un certain nombre de romans qu'il a écrits. Donc voilà, donc il y a à la fois cette évolution et en même temps des pôles qui... C'est pour ça qu'il est assez inclassable d'une certaine façon, parce que C'est un sociologue qui disait à la fin de sa vie que la littérature était tout aussi valable, sinon plus, que la sociologie. Et il osait dire ça dans un milieu sociologique à prétention scientifique, où véritablement ce genre de phrase ne plaît pas trop. Et je pense que fondamentalement ce qu'il a apporté à la sociologie, c'est qu'il a remis en cause, si vous voulez, toute une sociologie centrée sur néo-marxiste, on va dire néo-bourdieusienne, centrée sur la logique de la domination et de la manipulation, sociologie qui considérait que les acteurs sociaux étaient toujours sous l'emprise du faux, c'est-à-dire qu'ils étaient aliénés, manipulés, et il va s'intéresser à des petits phénomènes qui étaient absolument pas pris en compte, en prenant en compte le discours que les acteurs sociaux ont sur leurs pratiques, et ce discours est signifiant, il n'est pas qu'un épiphénomène. Et c'est quelqu'un aussi qui n'était pas dans la sociologie, dogmatique et sectaire. Il n'a jamais cherché à construire un système avec une dimension d'interdisciplinarité. C'est-à-dire, vous aviez la sociologie un peu au sens strict, mais vous aviez l'anthropologie, etc. Alors, on pourrait revoir sur d'où vient tout ça. Voilà, à mon avis, donc c'est un apport, à mon avis, considérable qu'il a apporté à la sociologie.
Philippe Reynaud, comment compléteriez-vous ce portrait et êtes-vous d'accord avec la périodisation effectuée par Jean-Pierre Le Goff?
Je suis d'accord avec la périodisation proposée par Jean-Pierre Le Goff, à condition d'ajouter que, malgré les évolutions et les ruptures, il y a quand même une grande continuité dans cette œuvre. Bon, le livre qu'il a fait connaître, c'était « Jeux, modes et masses », qui est marqué par un optimisme typique des années 80, qui est certainement n'a pas la même tonalité enfin du début des années 80, qui n'a pas la même tonalité que ses travaux antérieurs. Mais ce que vient de dire Jean-Pierre Le Goff, c'est-à-dire cette sociologie qui considère qu'il n'est pas très fécond de partir de l'idée que les acteurs sont manipulés, etc., qu'il faut partir du sens qu'ils donnent à leur action, etc., c'est bien celle qui est déployée dans Jeux, modes et masses, alors qu'il se présente comme une réhabilitation. Évidemment, bon, le rock'n'roll, c'est assez acceptable, mais enfin, le tiercé, l'automobile, etc., il s'agissait de faire un pied de nez à la fois à la sociologie et à la grande culture, bon, bien sûr.
Alors, un pied de nez aussi, quand même, au gauchisme, me semblait-il. Une sortie du gauchisme sous le choc de la dissidence, de la réflexion anti-totalitaire, début des années 80, réhabilitation de la démocratie comme mode de gouvernement, réconciliation après l'élection de François Mitterrand de toute une génération avec le suffrage électif. On s'éloigne définitivement de l'élection piège à con des années 60, mais c'est aussi la démocratie comme forme de société. Alors je voudrais qu'on s'arrête un peu à Jeux, modes et masses, livre qui personnellement m'avait un peu heurté. Et j'ai d'ailleurs eu une polémique dans le débat avec Yonet que j'ai relu pour cette émission, parce que, en effet, c'est l'idée que la démocratie, c'est aussi des activités considérées longtemps comme aliénantes, la consommation, le rock'n'roll, etc. Et c'est l'idée donc que il faut réhabiliter tout cela. Mais il va très loin, me semble-t-il. C'est-à-dire, le rock'n'roll, c'est l'émergence de ce qu'il appelle un peuple adolescent, la sortie d'une civilisation fondée sur les mots du livre, voire la référence aux mots du livre, L majuscule, la Bible. Et il dit que cette formation d'un peuple adolescent cosmopolite, eh bien, rapporté à cela, la crise de l'école est désormais sans issue. Il cite « Notre vie, c'est le rock, pas le bahut », et il se félicite de voir émerger une société enfin devenue adolescente. Et ce qui m'avait, je mets un peu les pieds dans le plat, particulièrement choqué dans ce livre, c'est à la fin un chapitre ou un paragraphe intitulé « Zazou, Zazou, Zazou ». Il dit que est apparu en 1942 un phénomène unifiant générationnel, la mode, les Zazous en 42, je répète cette date, je suis obligé de le faire quand même, c'est le pire moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'horreur sans fin, dont on pense qu'elle est sans fin. Les Azous revêtent des pantalons larges et des vestons très longs, alors que l'heure est à tous les dangers, aux bombardements, aux nouvelles du front, aux prisonniers, aux otages, aux déportations. Ils se réunissent pour danser au son de la musique swing. C'est un défi à la gérontocratie pétainiste, mais c'est aussi un défi à la résistance. Et c'est un mouvement, dit-il, très subtil de dépolitisation, par quoi la culture des jeunes trouve son mode d'expression le plus étonnant et le plus décisif. Donc, ils sont dénoncés par les collaborationnistes comme des corrupteurs de la jeunesse et méprisés par les résistants. Et c'est eux que Yonnet considère comme les ancêtres d'une nouvelle culture démocratique. Alors, c'est pousser la définition de la démocratie assez loin, et c'est très provocateur, et je dois avouer que je me suis senti, en effet, moi-même, provoqué par ces propos. Ai-je eu tort, Jean-Pierre Le Goff?
Je pense qu'il y a de quoi être à être provoqué. D'ailleurs, c'est un peu le style de Paul Yonnet. Il avait gardé quand même quelque chose de 68, qui était une provocation, toujours se situant un peu à la limite, mais sur la question pour moi de ce livre est quand même de savoir si il nous apporte quelque chose. Ma réponse est globalement oui, parce que je ne peux plus voir, si vous voulez, un certain nombre de phénomènes, par exemple sur les chiens, les chats, sur l'automobile. Je pense qu'il y a un apport considérable dans la façon dont il aborde ces choses-là. Si je prends le rock, parce que j'ai relu aussi la polémique quand même qui était très violente avec lui, enfin violente dans les mots. D'abord, je commencerai par dire sur l'esthétique rock que c'est un article qui apporte quelque chose, enfin qui moi m'a apporté quelque chose sur l'analyse du rock, notamment les traits permanents constitutifs du rock'n'roll, par exemple, ce qu'il a écrit, je ne l'avais lu jamais nulle part auparavant, sur la culture de l'intro, le rock comme une culture de l'intro, c'est-à-dire l'alternance de rythmes lents et de rythmes accélérés, de sons faibles et très forts, qui se démarque de toute une autre forme de musique, ce système de reconnaissance non verbale, d'ailleurs c'est là-dessus que la polémique a porté en partie, une culture autodidacte et un style nouveau de provocation. Alors, lui va vous dire, je me maintiens à l'analyse, je ne vais pas au-delà. Or, force, en regardant le papier, ce n'est pas tout à fait exact. Et vous avez posé la question des Azous, elle a été posée, Éric Conan l'a posée dans un article de Libération, exactement dans ces termes-là, et la réponse a été de dire, eh bien, moi, je me contente de l'analyse, et ce que je veux dire est la chose suivante, c'est-à-dire que les Azous représentent un mouvement de dépolitisation, et n'oublions pas aussi, par exemple, il ne cite pas, mais Boris Vian était aussi dans cette formation du peuple adolescent, c'est une matrice qui est importante à prendre en compte. Voilà ce que je reconnais d'intéressant, et à mon avis, c'est un apport décisif de Paul Yonnet. Maintenant, vous avez tout à fait raison, il va pousser le paradoxe très loin. C'est-à-dire qu'à la limite, la démocratie, moi, à l'époque d'ailleurs, j'en ai discuté avec lui, parce que j'étais pas forcément d'accord, évidemment. Parce que je trouvais qu'il y avait une façon de pousser le paradoxe qui consistait à dire, plus c'est dépolitisé, plus c'est démocratique. N'oublions pas aussi qu'au même moment, en 80, il y a l'ère du vide de Gilles Lispovetsky. C'est-à-dire la redécouverte de la démocratie qui fait du bien par rapport au discours. N'oublions pas qu'on est encore dans la lignée de l'antitotalitarisme, qui fait du bien par rapport au tout politique qu'on a connu dans les années. Et il y a un espèce de mouvement de balancier qui se joue à ce moment-là, mais j'insisterai sur un point, ça ne remet pas en cause, à mon avis, les apports de Yonnet dans l'analyse des phénomènes qu'il a pris en compte, parce que personnellement, le jogging, je ne l'avais pas vu comme ça, pas du tout. La question du nouveau rapport à l'animal, par exemple, j'ai retrouvé « redoutable, dit-il, mise en cause de la condition humaine au bénéfice de l'animal, amorçant, je cite, un nouvel anti-humanisme de notre temps ». Ce qui est quand même extraordinaire de dire ça à ce moment-là. Donc il y a un apport, et en même temps que cet apport, il y a effectivement cette espèce de retournement par rapport à la période précédente qui fait que la démocratie est redécouverte dans une dimension, j'allais dire, presque apolitique. Ça va vite changer, c'est comme le débat. Parce que n'oublions pas, on est en 80, il faudrait reprendre le premier éditorial du débat, 90. Pierre Nora, dans un éditorial, dit « Ah, c'est pas la démocratie, c'est pas comme ça tout à fait qu'on l'avait vu ».
Philippe Reynaud, qu'est-ce que vous pensez de ces provocations de Paul Yonnet et de cette vision de la démocratie ? Est-elle liée à une époque ou a-t-elle encore quelque chose à nous dire ?
Elle est liée, je crois, à une époque, c'est-à-dire à l'époque du début des années 80, qui est une époque, je dirais, de détente et de soulagement. Moi, je me souviens très bien de l'ambiance de cette époque, et tout se passait d'ailleurs autour de la revue Le Débat, qui a joué un très grand rôle, parce que Marcel Gauchet s'intéressait beaucoup à ces questions, les gens qui écrivaient ces choses étaient souvent ses amis, comme Yonet et Lipovetsky, et ça succédait à une période dans laquelle on combinait, disons, ce que j'ai appelé l'autorité de l'idée révolutionnaire, qui pesait très très lourdement sur nous tous, avec les philosophies anti-humanistes, structuralistes, etc., qui avaient d'ailleurs des mérites par ailleurs, mais qui nous faisaient vivre dans une fausse conscience où nous n'aimions pas ce que nous aimions. Et nous étions dans une espèce de corset. Et ce qu'il décrit, c'est la libération de ce corset. Alors il le fait avec, comme l'a dit Jean-Pierre, un immense talent dans la description des phénomènes modernes. Et d'ailleurs une sensibilité que je partageais pour certains points, par exemple l'article sur le rock'n'roll. Moi, je me souviens, j'étais content de voir quelqu'un qui préférait le hard rock à la pop music, etc. Bon.
Oui, mais enfin, il préférait pas simplement le hard rock à la pop music. Il publie dans Le Débat, il en avait fait un autre d'ailleurs sur le pop et le punk, enfin, ouais. Il publie dans Le Débat un article pour faire l'éloge de la culture non-verbale et de sa suprématie sur la culture verbale. Il annonce dans Le Débat la fin du livre. Alors, je veux bien qu'on ait été fatigué de l'anti-humanisme, mais qu'est-ce qu'un éloge comme celui-là, à voir avec l'humanisme, dans la mesure où l'humanisme, c'est la découverte de soi et du monde à travers les grands textes de la culture, par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres. Je reprends là une formule de Ricoeur. Donc, c'est une autre forme d'anti-humanisme que ce panégyrique de la culture non-verbale, et quel soulagement peut-on éprouver, Philippe Reynaud, devant cette mise en exergue du peuple adolescent, peuple cosmopolite. Est-ce que, même à l'époque, on pouvait pas se dire, vraiment, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et en quoi?
Je vais vous dire quelle était ma réaction à l'époque, c'est que je trouvais que alors c'est un peu simplé comme vision, mais que c'était une description très très fine de tout ce qui se passait, avec simplement une adhésion au premier degré à cette période que je ne partageais pas, mais simplement je ne le prenais pas au sérieux. Je
vous dirais. Ah d'accord.
Ces aspects-là, et je pense par ailleurs, si je peux légèrement anticiper sur peut-être d'autres questions, que c'est un moment dans lequel le rock'n'roll décrit une recomposition, hein, tout cela décrit une recomposition du peuple français. C'est très important, le tiercé, la voiture, etc. Et je rappellerai à un auteur que vous avez peut-être oublié, qui était Franck Margerin. Vous vous souvenez des bandes dessinées de Franck Margerin? Non, ça vous dit rien.
Ça me dit quelque chose, mais très vaguement.
Dont les héros étaient des jeunes des banlieues, à l'époque où les jeunes des banlieues n'étaient pas les jeunes des banlieues d'aujourd'hui. Et pour moi, le monde de Yonet, c'est le monde de Franck Margerin. Cette espèce de rock'n'roll assez bon enfant, dans lequel il y a ce côté antiscolaire, bon, où le prof d'anglais demande aux gens « What color are the blue suit shoes ?» et ils répondent « The blue suit shoes are blue ». Bon, c'est un autre monde, mais c'est pas le monde que nous voyons maintenant.
Moi, je pense qu'il y a un aspect sur la question du rock absolument central, c'est le moyen par lequel l'adolescent, ce qu'il appelle, se constitue en continent social et devient une culture, ça c'est mon point de vue, qui va devenir assez hégémonique. C'est-à-dire qu'il va se répandre et déterminer un type de comportement adolescent. Enfin bon, il le dit pas comme ça, c'est moi plutôt qu'il tirerait un peu dans ce sens-là. Pour moi, c'est essentiel. Maintenant, la réponse qu'il donne, n'oublions pas qu'il dit, c'est une provocation et il y a le simulacre dans le rock. Et la façon dont il vous répond est en partie totalement liée à ça. Il a une posture, Sympathie for the Devil, qui fait allusion au Rolling Stone. Quand même, c'est quand même un peu dur. Mais quand je regarde les choses, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un moment euphorique. N'oublions pas aussi que Jacques Lang va arriver avec... Et il y a une dimension de relativisme culturel qui est, à mon avis, assumée dans son papier. C'est-à-dire qu'un processus... quand il dit la culture, finalement, c'est un processus d'élimination historique, ce qui n'est pas faux en soi, et on ne sait pas ce qui va en résulter. à terme entre le rock et j'allais dire la grande culture, il y a un peu l'idée, si vous voulez, d'une réévaluation constante et permanente, un peu comme l'identité narrative telle que la pratique Macron. Alors, c'est toujours en redéfinition, c'est toujours fluide, et effectivement, il y a une attaque qui est assez nette, un peu provocatrice, contre la haute culture, pour dire les choses.
Oui, et qu'on retrouve d'ailleurs chez Lipovetsky, mais c'est ça qui me surprend encore aujourd'hui. C'est-à-dire, Lipovetsky écrit un livre intitulé « L'ère du vide », où lui aussi procède à la réhabilitation de la société de consommation, cible de toutes les attaques en mai 68. Mais justement, il appelle ça l'ère du vide. Donc on pourrait dire, mais le titre est terrible. Mais il dit, vive le vide, en quelque sorte, parce que tout cela, ça met les choses sur le même plan et cela parachève l'égalité des conditions. Les dissemblances hiérarchiques ne cessent de reculer au bénéfice du règne indifférent de l'égalité. On sort de l'âge disciplinaire, dont l'école, en quelque sorte, est la forme emblématique, et on entre dans l'âge du libre-service, où tout est optionnel, où chacun fait ce qu'il veut, se constitue comme il le souhaite. Donc c'est l'individualisme démocratique, et tout cela au nom de Tocqueville, alors que chez Tocqueville, l'égalisation des conditions est présentée de manière extrêmement ambivalente, parce que Tocqueville est attaché aussi à la démocratie comme forme de vie collective, et ce processus l'inquiète plutôt qu'il ne l'enthousiasme.
Mais si vous voulez nous dire que Yonet et Lipovetsky n'étaient pas des vrais Tocquevilliens, et qu'ils auraient dû être inquiets devant ce qu'ils décrivaient, moi je suis totalement d'accord avec vous. Mais je me souviens dans la polémique que vous aviez eue, il y a une formule de Yonet que je trouvais assez saisissante, et qui a une certaine profondeur. Il vous répond, vous défendez les Lumières, et il dit, mais les Lumières c'est l'esprit rock de l'époque du XVIIIe siècle. Mais c'est pas si mal vu, parce que n'oubliez pas que les Lumières, par exemple, se sont construites en grande partie contre la culture humaniste traditionnelle. Le début du déclin de la culture gréco-latine, etc., c'est le programme des Lumières. Et les Lumières ont été dénoncées par toute la pensée romantique, comme l'ère de l'abstraction, du nivellement, de la perte du sens, etc. Et c'est un moment négatif, si vous voulez. Alors il est dans une espèce d'éloge sans limite de cette négativité-là. Je pense que une fois qu'on a été adolescent, il faut devenir adulte.
Voilà. Alors justement, c'est une très belle défense que vous venez de faire, Philippe Rinaud. On pourrait continuer à discuter, mais plutôt avançons. Et je voudrais que nous parlions d'un livre très important de Yonet qui marque, à mon avis, le commencement de sa métamorphose. C'est « Voyage au centre du malaise français ». Ce livre est publié, je crois, au début des années 1990. Oui. C'est la première critique argumentée de l'antiracisme. Alors, parlons de ce livre, de son contenu et de l'accueil qu'il a reçu, ou plutôt subi. Jean-Pierre Le Goff.
Je pense que c'est un livre absolument essentiel, puisqu'il met en cause, il faut vraiment se resituer dans le contexte, c'est-à-dire le mitterrandisme triomphant, la reconversion d'un certain nombre de gauchismes, plutôt deuxième génération, c'est pas les premiers 68ards, à l'intérieur de l'appareil du Parti Socialiste, avec SOS Raciste, qui est un... Je dirais pas que c'est une courroie de transmission d'un PS qui est en train de reviser sa doctrine, mais il y a quand même cet élément-là. Et ce qu'il met en cause, faut bien être précis. Ce n'est pas l'antiracisme en général, c'est ce qu'il appelle l'antiracisme de nouvelle génération. Parce que dans la dimension, c'est comme ça du moins que je l'interprète, du premier antiraciste, il y a une dimension universaliste. Là, on va vers une dimension ethnique, si vous voulez, et communautarisme. Et il indique que ce nouvel antiracisme intervient au moment où se décompose le messianisme révolutionnaire. Et qu'en fait, cet antiracisme va servir de substitution et va, loin de vaincre le racisme, va au contraire entraîner des réactions qui vont amener des réactions de xénophobie, de défense. D'ailleurs, je pense que cette expression, je ne sais plus à qui il apprend, mais c'est ça. Et donc... ce qu'il critique dans un premier moment dans ce livre, la façon dont SOS Racisme est elle-même promue dans l'espace public, parce qu'il y a toujours un montage, et là il va très loin, c'était vraiment quelque chose qui à l'époque, étant donné l'hégémonie médiatique, on l'oublie, et la culpabilisation générale qui existait, et qui existe toujours encore, mais à l'époque il y avait vraiment peu d'espace. Et il y va fort, puisqu'il dit, on manipule ce nouvel antiracisme, manipule le sentiment de fraternité humaine, et instrumentalise l'immigration. Et à ce moment-là, bon, évidemment, il ne s'y attendait pas du tout. Mais il y a une déferlante de critiques, en gros, c'est Le Pen déguisé, etc. Et je pense que il était sous cet aspect prophétique. Mais il y a un papier, j'en parlerai tout, qui est avant, celui qui pour moi est très important, qui est des années 90, qui est paru dans Le Débat en mai-août 1990, Le Nouvel Ordre Moral. Je voudrais juste vous en citer un extrait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'à ce moment-là se met en place un nouvel ordre médiatique qui a succédé à l'ordre idéologique avec deux piliers, l'aide d'urgence, espèce de caritatif, et l'antiracisme, avec le droit à la différence. Et il parle des socialistes français, il nous dit ceci. Au fond, les socialistes français, s'ils ont depuis longtemps abandonné la perspective de façonner un homme socialiste, n'ont pas tout à fait abandonné l'ambition de changer l'homme contre son gré, par un autoritarisme insidieux, en l'espèce culpabilisateur, où s'inscrit précisément ce ressort central que j'appelle le nouvel ordre médiatique. Et il a aussi, dans ce papier, que je trouve assez remarquable, il décrit la nouvelle forme de militantisme. On passe d'un militantisme sacrificiel avec des affrontements avec la police, à l'État, où le fait, vous allez à un concert, vous payez votre ticket, il y a du rock, et vous militez. SOS Racisme, pour lui, a été le moment de la recomposition du militantisme avec bonne conscience. Et en participant à un concert de rock, eh bien, ma foi, c'est rock, un...
Ça aurait pu lui plaire, alors.
Eh bien, ça lui plaisait, mais pas de cette façon-là. Voilà. Parce que pour lui, le rock n'avait pas rentré dans cette dimension-là.
Philippe Reynaud.
Je me souviens, d'ailleurs, d'une conversation avec lui où je lui disais ce que vous veniez de dire. Ça devrait te plaire, le rock'n'roll. Et il m'a dit, mais c'est pas de la bonne musique qu'on entend à SOS Racisme. Ouais. C'est-à-dire qu'il trouvait que cette espèce de... Alors, ce qu'il faut peut-être appeler la troisième vague ou la quatrième vague de démocratisation du rock'n'roll, qui allait au-delà de ce qu'il espérait, coïncidait avec une sorte de déclin des formes auxquelles il était probablement sensible. Bon, alors, c'est un livre qu'on peut voir comme... Ça, il ne le présente pas comme une autocritique par rapport au texte précédent. Il continue à dire qu'il est dans un registre de description. Je pense que c'est un livre très très brillant, très très profond, très intelligent. Quand on le relit aujourd'hui, on a effectivement le sentiment qu'il a compris énormément de choses. Mais peut-être qu'il faut ajouter que dans le malaise, comme on dit, de manière un peu désagréable d'ailleurs que ça avait suscité, ça tient en partie aussi à la manière dont il présente l'histoire de France récente, et notamment à une certaine, je dirais pas ambiguïté, mais une certaine complexité, disons, de ce qu'il écrit sur la Deuxième Guerre mondiale et sur le... Parce que n'oubliez pas qu'il insiste sur le fait que le nouveau roman antiraciste se substitue à un roman national qui est le roman national gaulliste, mais dont il suggère lui-même que ce roman avait quelque chose d'un peu trop romanesque, justement. Et il n'est pas du tout pétainiste, mais il est assez proche, je crois, de cette tradition française qui, tout en refusant la collaboration, trouvait que Vichy, dans les premiers temps, avait quelques excuses, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, quand même.
Moi, c'est pas tout à fait ce que j'ai perçu dans le livre,
C'est un peu girondiste comme livre.
Alors, là, vous êtes plus perspicace que moi, Philippe Reynaud. J'ai été, je dois dire, en lisant ce livre, et en le relisant, passionné par le dernier chapitre, justement, c'est-à-dire la manière dont la génération post-68arde récupérait la résistance. Dans un premier temps, on insiste pour dire que la France a été, contrairement au roman national gaulliste, un pays collaborationniste, ce que Yonnet regrette, mais surtout, il dit, la résistance n'intéresse les étudiants vaincus de 68 et les post-68ards que dans la mesure où elle est résistance à la France, résistance contre la France. Il fait un sort notamment au livre de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, où il dit qu'en fait, parce que Bernard Lévy dit que la France, dans la collaboration, ne s'est rendue coupable que d'intelligence avec elle-même, et c'était l'idéologie française qui était à l'œuvre, et Bernard-Henri Lévy fait l'éloge d'une vision très abstraite et très universaliste de la nation, parce que l'identité française, sous quelque forme qu'elle prenne, est par nature tueuse de juifs, de noirs, d'arabes. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Paul Yonnet, dans ce livre, cite « Chronique de guerre » de Raymond Aron. Oui. Un livre, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a attiré mon attention sur ce livre, et que, enfin, le recueil de toutes les chroniques écrites par Aron à Londres, un livre que je trouve personnellement extraordinaire. Et Yonnet cite ce passage. « Nul signe plus frappant de la ferveur patriotique qui anime les Français » que cette interrogation des maîtres. Les colonnes des journaux sont remplies d'articles sur Corneille, sur Racine, sur Montesquieu. On fait le compte de ce qui a résisté au désastre. Un poète entre tous paraît présent, vivant dans notre partie meutrie, Charles Péguy, tué d'une balle au front en septembre 14. Péguy, fils du peuple, catholique et socialiste à la fois, avant tout français. Et Raymond Aron voit dans cette ferveur patriotique des signes d'espoir. Il pense que ça va pouvoir animer l'esprit de résistance. Et c'est là que Yonnet se reconnecte à cette littérature qu'il avait cru au moment de son éloge du peuple adolescent et de l'esthétique croque pouvoir répudier. Donc tout d'un coup, la France et la littérature, la France patrie littéraire, la France de Corneille, la France de Molière, de Racine et aussi de Péguy. Je trouve que c'est le moment de sa conversion ou de son retour à quelque chose, et je lis ce passage avec beaucoup d'émotion. Philippe Reynaud.
Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais précisément Raymond Aron, il insiste beaucoup sur ces textes qui sont en effet admirables, mais je crois qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il y a de singulier dans la position de Raymond Aron, qui est à Londres depuis le début, mais qui n'est pas dans les milieux gaullistes.
Il n'est pas gaulliste.
Ne l'oubliez pas, qui n'est pas gaulliste, qui dénonce l'imposture de la Révolution nationale sous l'égide de l'occupant, etc., mais qui a toujours considéré que le choix de l'armistice n'était pas en lui-même déshonorant. C'est une chose sur laquelle il n'a jamais varié. Sans pouvoir être soupçonné le moins du monde de pétainisme, mais il y a un coin, si vous voulez, dans la représentation gaulliste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui est enfoncée par là, et d'ailleurs qui se termine aussi par le fait que dans les articles qu'Aron écrit à l'époque, il y a l'article sur l'ombre des Bonaparte, qui est pas vraiment à la gloire du général de Gaulle. Aron est quand même dans quelque part, si vous voulez, entre la vision gaulliste et celle de Saint-Jean de Perse, de Jean Monnet, etc., qui avait une vision différente des équilibres de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que Yonnet, d'ailleurs, les références à Saint-Exupéry, d'ailleurs, ça a un petit peu le même sens. Et relisez dans le voyage sur le malaise français, relisez l'appréciation complexe de l'ensemble de la carrière de Pétain.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais face quand même à l'antiracisme, l'idéologie antiraciste qui se déploie là, Yonnet, disons, réhabilite une certaine idée de l'identité française,
d'accord avec vous,
une identité façonnée par la littérature.
Oui, mais il a toujours eu le goût aussi, à partir de ce livre encore plus qu'avant, pour le fait d'appuyer où ça fait mal. Et je pense qu'il l'a fait délibérément, et que ça a un petit peu affaibli sa position dans ces polémiques de l'époque.
Jean-Pierre Le Goff.
Je rejoins tout à fait le point de vue Philippe Reynaud. Il y a deux choses. Il y a ce qu'il appelle une critique du néo-résistentialisme post-68, c'est-à-dire que les derniers résistants antifascistes... moi, j'insisterai personnellement sur post-68, parce que dans son texte, il parle des 68ards. En réalité, quand on regarde SOS Racisme, c'est pas forcément les acteurs directs de 68. C'est la génération dite morale qui va intervenir après ça. Il fait peu de distinctions. Là-dessus, je me distinguerai de lui. Mais globalement, ce qu'il met en cause, c'est le moment de culpabilisation générale qui arrive en France. Et cette question de l'identité nationale, d'ailleurs dans le nouvel ordre moral, il dit « Nous assistons à une déportation culturelle de l'identité française. Les Français doivent entendre qu'ils ont le devoir d'être désormais différents. Le projet n'est pas, et il ajoute, le projet n'est pas posé en ces termes, il avance de façon souterraine et sauvage. Et il annonce, à mon avis, ce qui va exactement se passer du point de vue de cette logique de mémoire pénitentielle. Alors, il y a ce que dit Philippe, auquel évidemment j'étais aussi sensible en lisant le livre, parce qu'on discutait sans arrêt, si vous voulez. Et par exemple, c'est un des points, au moment où il était malade, j'aurais voulu revenir sur cette question-là. On avait prévu un rendez-vous, il était parti dans l'ambulance pour revenir sur ces points-là, pour discuter avec lui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que il y a une évolution chez Paul Yonnet, sans pour autant avec une volonté de faire absolument une synthèse et un fil directeur. Il construit pas un système. Il avance, il fraye un chemin. Il y a un côté franc-tireur, si vous voulez, chez Paul Yonnet. Il enfonce un certain nombre de coins, il provoque, il revient, il continue. Mais vous avez totalement raison. C'est le moment de la redécouverte avec un sentiment de honte, que moi aussi, d'une certaine façon, j'ai pu partager à un moment donné, de l'injustice de notre attitude vis-à-vis d'une certaine culture, si vous voulez. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va se flageller, etc. Mais on a été des... Excusez-moi, il y a un moment, on était des petits cons. Enfin, je n'ai pas d'autres termes.
Et il est formulé comme vous, Yonnet ?
Oui, je pense, oui, oui. Et il avait d'ailleurs, j'ai trouvé une phrase de lui qui était, ça c'est sur la fin, qui était très dure à propos de cette génération. Ce survivre était difficile, car c'était survivre à l'histoire relativement honteuse d'une génération. Ça, c'est la fin, si vous voulez. Et là, ça va s'accentuer, cette dimension qui va aller vers la littérature et vers une vision extrêmement noire de l'évolution de la France, puisqu'il y a une espèce de parallèle, si vous voulez, qui va être de plus en plus marqué entre l'évolution de sa maladie qui peut aller vers la mort et la fin de l'identité française et de la France qu'il a aimée, qu'il a vécue, même s'il a contesté. Il y a une espèce de parallèle entre les deux, ça marche ensemble pour lui.
Peut-être redécouvre-t-il aussi une dimension de la sociologie que son hymne au peuple adolescent lui avait fait oublier. Je pense à cette magnifique phrase d'Auguste Comte, « La société est composée de plus de morts que de vivants ». Et il y a un certain nombre de morts là, qu'il habite, qu'il aime, auxquels il rend hommage, et dans « Zone de mort », il y a cette phrase que je trouve absolument magnifique. « J'ai maintenu ce que j'ai pu. Qui maintiendra après moi ? Je voudrais tant que ma grand-mère le sache. Mmh. Je maintiendrai. » C'est la devise de la Maison d'Orange, je crois. Mais voilà, sa posture a complètement changé. Oui, tout d'un coup, il s'agit de maintenir. Et puis vous parlez, Jean-Pierre Le Goff, de son inquiétude. Et vous citez dans votre préface... ces paroles de Bernanos, « Je comprends mieux chaque jour que sans aimer mon pays mieux qu'un autre, je ne puis supporter d'avoir perdu l'image que je m'étais formé de lui au temps de mon enfance, je ne proposerai d'ailleurs cette souffrance en exemple à personne, elle doit ressembler un peu à celle du chien qui ne sent pas très bien ce qui lui manque, mais cherche partout son maître mort et va crever sur sa tombe. »
C'était tout à fait, à mon avis, le sentiment de Paul à la fin de sa vie. Enfin, je l'interpréterai comme ça, avec une différence essentielle par rapport à Bernanos. C'est que la mort, je retrouve l'enfant que je suis avec la dimension de la grâce. Or, chez Paul Yonnet, il n'y avait pas cette dimension-là, visiblement. Enfin, donc il y a un désespoir qui est encore plus dur, et c'est du côté de Céline qu'il se tourne. Il relisait Bernanos, il relisait Céline, mais c'est du côté de Céline qu'il va aller, en fait. Et moi, je pouvais pas le suivre du tout sur ce terrain-là. Mais effectivement, il y a cette redécouverte. Mais je reprendrai volontiers la formule de Philippe Reynaud. Le problème, il y a le peuple adolescent, et il y a un moment où il faut dépasser l'adolescence. Et ce que j'observe, c'est une bonne partie des post-68ards, au moins, c'est qu'ils sont restés avec des arrêts sur image. Je pense que Paul Yonnet et d'autres, moi j'étais sans arrêt aussi avec lui, il y a un moment donné où il a fallu s'extraire de ça. Moi, parallèlement, j'ai essayé d'écrire mai 68, l'héritage impossible. Et c'est à ce moment-là, mais pas du tout, parce que on s'est de nouveau rencontrés, on s'est de nouveau, si vous voulez, on s'est retrouvés d'accord, avec beaucoup de différences quand même, parce qu'il y avait un pessimisme qui allait croissant chez Paul, qui n'était pas tout à fait forcément le mien.
Philippe Reynaud, ce pessimisme est-il le vôtre ?
Pas vraiment, mais ça c'est presque une question de tempérament. Exactement, oui, exactement. C'est exactement ça. Je ne partage pas cette vision, cette Stimmung de noirceur généralisée. Alors, je remarquerai d'ailleurs, quand on dit ça ressemble à Bernanos ou à Peggy ou à d'autres gens, ben justement, tout ce que disent Peggy et Bernanos au moment où ils écrivent, c'est que l'ancien peuple a déjà disparu, l'ancienne France a déjà disparu, etc. Il se trouve que si on lit Paul Lyonnais, on a l'impression qu'elle était encore là dans les années 70. Ouais. Donc à quel moment est-ce que tout ça, à quel moment est-ce que tout ça a disparu et qu'est-ce qui nous permet de dire, si vous voulez, que nous ne sommes pas dans une nouvelle crise de recomposition, parce que, comment dirais-je, si nous pouvons décrire les mutations de notre monde dans le langage dans lequel Peggy décrivait les mutations du sien, ça veut dire que Peggy avait tort, puisqu'il disait que la fin avait déjà eu lieu, et nous reprenons...
Il était avait tort ou il était prémonitoire?
Non, parce qu'il s'est passé 100 ans, si vous voulez. Un monde mort qui survit pendant 100 ans, ça ne va pas. Alors ce à quoi j'invite, c'est un peu de prudence dans le diagnostic de décès, si vous voulez, de notre société, de notre patrie.
Ce diagnostic, diriez-vous, Jean-Pierre Le Goff, Paul Lyonnais le faisait. Il avait le sentiment que quelque chose était en train de mourir.
C'était la France qu'il avait connue. Quand Philippe Reynaud parle des années 70, moi je l'ai vécu. On était, je pense que la génération 68 est une génération intermédiaire, d'une certaine façon. Quand on regarde, ça c'est un autre sujet, mais quand on regarde la France qui s'est développée dans l'après-guerre, il y a une situation inédite historiquement du point de vue du développement de la consommation et des loisirs, même si on peut trouver déjà des éléments de modernité antérieurement. Et Paul Lyonnais, dans un premier temps, s'est inscrit là, en disant « mais on n'a rien compris, voilà. Il y a quelque chose de neuf ». Et tout d'un coup, très vite, mais ça aussi, parce que c'était une des grandes plumes du débat, Paul Lyonnais quand même, très vite le débat lui-même va évoluer par rapport aux années 80. Vers les années 90, et on dit, mais il y a un problème, la démocratie, ça peut pas être la fin de l'histoire. On voit arriver une recomposition idéologique problématique.
Et on peut dire aussi, la démocratie, ça peut pas être simplement la culture de masse.
Voilà. Et donc, il y a une redécouverte. Alors, ça fait partie, si vous voulez, quand vous avez beaucoup, j'allais dire, remis en cause de façon radicale un certain nombre de choses, vous avez tendance à les redécouvrir et aller, d'une certaine façon, trouver beaucoup de choses que vous, avec un sentiment d'injustice à réparer. Il y a quand même un peu cet aspect-là que je comprends d'ailleurs tout à fait, si vous voulez.
Mais alors, pour revenir sur la première période de Paul Lyonnais, vous avez dit au début de l'émission, Jean-Pierre Le Goff, que le seul professeur que vous épargniez dans votre moment de violence verbale de 68, c'était Claude Lefort. Et j'ai relu dans son livre Écrire un chapitre intitulé Réflexion sur le présent, où il me semble qu'il polémique souterrainement avec Castoriadis. Et il dit ceci: instruire le procès de la culture de masse ou de l'individualisme, sans comprendre que ces phénomènes sont eux-mêmes irrésistibles, sans tenter de discerner quelle est la contrepartie de leurs vices, décider par exemple que la diffusion de l'information, la découverte des pays étrangers, la curiosité pour les spectacles, etc., etc., tout ça n'a d'autre conséquence que de le faire apparaître au grand jour la bêtise de l'homme moderne, c'est faire preuve d'une arrogance qui n'est pas elle-même exempte de bêtises. Donc il y avait, chez Lyonnais et chez vous, le souci d'en finir avec cette arrogance, cet élitisme, réhabilitation de la culture de masse, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on s'est dit, on est allé trop loin.
Je dirais qu'il était, si j'ose dire, un peu en avance par rapport à moi, parce que moi je restais dans une dimension très critique, même en ayant quitté le gauchisme, cette société de consommation, l'ère du vide, quand est paru l'ère du vide, je l'ai pris au premier degré, c'est-à-dire c'est un vide, et ce vide, il doit être comblé, il va être comblé par n'importe quoi, et par n'importe quelle idéologie. Alors que Paul, à ce moment-là, commençait à évoluer, donc il y avait sans arrêt un dialogue, si vous voulez, on se renvoyait un peu chacun la balle sans cesse, mais effectivement, alors pour dire deux mots sur, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Claude Lefort. D'abord, Claude Lefort, à Caen, était quelqu'un qui était encore un peu, j'allais dire, il sortait de socialisme ou barbarie, mais un peu dans la logique contestation venant d'en bas, ce qu'il appelait la démocratie sauvage. Et il a lu mai 68, encore avec ces dimensions-là. Il se trouve que je l'ai revu ensuite, et il a vu aussi comment, dans cette idéologie-là notamment, une espèce de nivellement, la question de l'État n'était pas posée. Et c'est là où il se sépare avec Castoriadis, la question de l'État de droit, puisque chez Lefort, on trouve la notion de droit. Mais à l'époque, à l'époque, en 68-70, Claude Lefort n'était pas, et d'une certaine façon, on s'y retrouvait parce que il était très critique. Et c'est avec lui un peu, il y avait une espèce de rencontre avec lui. C'était le seul professeur qu'on ne critiquait pas, mais qui en même temps remettait en cause assez radicalement aussi un certain type d'enseignement. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu aussi une évolution et qui a été suivie. Je dirais que la conception de la démocratie comme le fort, comme lieu vide, si vous voulez. Hein, bon, ça, on pourrait beaucoup discuter.
Ce n'est pas l'air du vide, mais c'est le lieu vide.
C'est le lieu vide, est tout à fait juste, parce qu'il montre comment il n'y a pas de fondement absolu et fondement de certitude à l'intérieur même de la démocratie, mais qui, en même temps, ce vide, il est comblé par des idéologies, si vous voulez. Vous ne pouvez pas rester... je pense que c'était l'époque aussi, en 80, où il y avait cette critique antitotalitaire de redécouverte de la démocratie, et qu'une forme de dépolitisation faisait du bien. Le problème, c'est que maintenant, on est totalement à l'inverse.
Cette dépolitisation... faisait du bien.
On soufflait.
Oui, c'est ça. On soufflait face au tout politique. Mais en même temps, ce tout politique, est-ce que c'était vraiment de la politique? C'était une politique idéologique? C'était une certaine vision de l'histoire? Et on peut se dire, au contraire, que sortir de l'idéologie, ça peut être redécouvrir la politique comme espace de discussion et d'élaboration en commun du sens. Ça aurait pu prendre cette tournure aussi.
Oui, mais ça ne l'a pas fait. Alors, je crois d'abord que, généralement, ce qu'on pourrait dire, c'est que, finalement, depuis les Lumières et la Révolution, pas chaque génération, mais périodiquement, une génération redécouvre les mêmes sentiments, que le monde est terminé, que l'histoire est terminée, que ça n'a pas de sens, qu'on va dans la dérision, etc. Il y a des thèmes constants de notre réflexion qui reviennent, alors qui font qu'on nous découvrons que chacune de ces générations découvre que la catastrophe va avoir lieu. Mais si elle va avoir lieu, ça suppose qu'elle n'a pas eu lieu et que la génération précédente qui s'en plaignait avait tort. Mais c'est notre condition, avec peut-être le fait qu'on peut avoir le sentiment qu'en effet on s'en fond de plus en plus. Bon, mais par ailleurs, sur ce que vous disiez, moi je crois qu'il est Yonnet avait une espèce de passion critique, de passion critique extrêmement extrêmement vive et profonde. Ça ne débouchait pas non plus, me semble-t-il, sur la redécouverte d'une politique articulée. Parce que si vous êtes justement dans cette position consistant à dire que tout est en train de s'effondrer, c'est extrêmement difficile de reconstruire une politique. Alors, si je peux ajouter une toute petite chose, c'est que nous vivions dans les années 70 dans l'illusion que tout était politique. Nous avons ensuite vécu une dépolitisation, plus ou moins générale, mais la période que nous vivons, c'est l'individualisme démocratique est en train de redécouvrir l'idée que tout est politique, puisque la langue est politique, puisque la sexualité est politique, etc. Tous les débats actuels sur la grammaire, etc., nous montrent que comment renaît une espèce d'aspiration, dont je ne dirais pas qu'elle est totalitaire, mais qui est quand même assez tyrannique, à l'intérieur de ce monde de la post-politique. C'est ça qui est étrange.
Ah oui, la langue est politique et on veut, si vous voulez, effectivement, instaurer dans la langue le règne de l'égalité en finissant avec ce qu'on croit être la domination du masculin.
Là-dessus, Jean-Pierre il était très radical sur le politiquement correct, Paul Yonnet. Moi, je dirais simplement un point, c'est la question de la démocratie qui est posée. C'est-à-dire que antérieurement la politique, ça formait une totalité très articulée entre la dimension esthétique, j'allais dire, la dimension de l'histoire, la dimension d'idéologie, et tout formait un bloc. Et en fait, on a assisté à une dissociation. Simplement, je pense qu'il y a eu une difficulté à faire le deuil d'une politique qui n'est pas, qui soit fortement ancrée dans une dimension messianique culturelle. Et que, effectivement, la question qui n'est pas posée par Paul, parce que Paul ne se situait pas dans la dimension de la politique. Par exemple, j'ai retrouvé un texte de lui dans un de ses romans. Il avait tourné le dos à la vieille et sombre passion des intellectuels français vouloir influencer ou faire la politique des sociétés. Mais en même temps, la façon dont il, quand il juger, j'allais dire, la société, il le faisait à partir d'un point de vue qui est essentiellement la dimension culturelle. Je pense que la question de fond qui est posée dans la réconciliation avec la démocratie, c'est comment la démocratie peut, j'allais dire, admet comme légitime une critique qui peut être assez radicale, y compris en termes, je dirais, civilisationnels, mais qui pour autant, cette critique, et c'est ça la difficulté, n'a pas forcément à s'articuler avec une politique. Et quand elle le fait, c'est généralement assez catastrophique.
Oui, et Yonet n'a jamais articulé sa critique avec une politique. Un mot pour finir, son rapport à la littérature. Moi, ce qui m'émeut beaucoup de la part d'un sociologue, c'est la place prise par la littérature dans sa vie, par la littérature comme espace, comme lieu de divulgation du monde à égalité avec les sciences sociales.
Alors là, je me permettrai de lire des lignes que je trouve très belles. D'abord, sur le climat des années 60, il disait, pour lire, il n'y avait pas de distraction intérieure. Je veux dire, nous n'étions pas distraits de notre intérieur, ni détournés, ni recomposés à l'extérieur de nous-mêmes par l'avalanche des sollicitations, ni blessés comme ces disques rayés à coups d'aiguille et qui, comme obsédés par la blessure, répètent indéfiniment la même chose. Et il dit, ce n'est pas la recherche du plaisir qui commandait l'ouverture d'un livre, je n'attendais pas qu'il me contente, je n'attendais pas qu'il me plaise, j'attendais qu'il change ma vie. Et ce qui, si vous voulez, je pense que j'étais très sensible à ça, parce que avant d'avoir, si vous voulez, passé par le gauchisme, j'étais nourri de littérature, avec les humanités, en fait. On est une génération qui a continué, qui a été effectivement intermédiaire, mais qui a été nourrie par cette littérature, et cette littérature n'était pas un supplément d'âme, elle est ce qui structurait même notre vie, d'une certaine façon.
Et ça, vous l'avez redécouvert ensuite?
Alors là, je l'ai redécouvert avec Paul, et je le redécouvre encore aujourd'hui, encore plus, si vous voulez.
Très bien. Et d'ailleurs, je voudrais signaler, pour finir, que le livre « Zone de mort », qui raconte justement ces dernières années avec une force extraordinaire, eh bien, ce livre se termine par une longue citation de « La mort du loup » d'Alfred de Vigny. « Les destinées de Vigny » étant devenu le livre de chevet de Paul Yonet. Un long chemin accompli depuis l'esthétique rock. Voilà, merci beaucoup Philippe Reynaud, merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff. Je rappelle le titre du livre de Paul Yonet, son livre posthume, donc « Zone de mort », il est publié aux éditions Stock. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Où va l'Allemagne ?». Mes invités sont Joachim Bitterlich et Luc Rosenzweig. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Bredin. Dans un instant, « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannenet.